les discriminations. Il en est question aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 13h. Vous avez peut-être vécu un moment ou un autre de votre vie, peut-être très récemment, l'exclusion, la discrimination. Ça peut être au travail, ça peut être dans les transports, un peu partout. Et il y a plein de raisons de discriminer. Ça peut être à cause de son handicap. On a une sensibilité particulière, nous ici, mais aussi pour une origine étrangère, pour des choses qui finalement sont souvent un petit peu bêtes. Voilà, c'est un peu bête le mécanisme de la discrimination. Alors, qu'est-ce qui marche pour lutter contre les discriminations? Le CV anonyme, la discrimination positive, comment favoriser de manière juste et comment lutter contre les discriminations, les recours? On va poser toutes ces questions à nos invités. Evald Mutabazi est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici. Vous êtes professeur consultant à l'EML Lyon, chercheur formateur, coach pour cadre d'entreprise en Europe, en Afrique aussi, c'est votre origine. Et puis Philippe Pierre est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, consultant, ancien DRH, ça c'est important, vous avez été dans le cœur des entreprises et du recrutement, vous co-dirigez le Master Management Interculturel de l'Université Paris-Dauphine. Il va y avoir un certain nombre de témoignages dans cette émission, comme chaque jour, vous entendrez Maître Sylvie Papazian, elle est avocate à l'Association française des diabétiques, elle défend ceux qui sont victimes de l'exclusion en raison de leur maladie longue durée. Il y aura également le témoignage de Brigitte Pozza, qui est chargée ressources humaines au ministère de la Défense. Elle est elle-même handicapée. Elle a bénéficié de ses compétences d'abord et aussi des 6% de travailleurs handicapés obligatoires dans chaque entreprise. Les séquences tout au long de cette émission, les idées reçues et les clichés qui ont la vie dure, ça c'est dans une dizaine de minutes. Votre séquence, un autre regard reviendra sur la lutte contre l'obésité, santé publique ou discrimination anti-gros, c'est la question qu'on se posera et répondra comme chaque jour en fin d'émission à toutes vos questions, les questions d'auditeurs. Une seule adresse pour les poser ou pour raconter votre histoire ici dans Vivre FM, c'est vous, témoignage@vivrefm.com. Les discriminations, c'est le titre du livre de nos deux invités parus aux éditions Le Cavalier Bleu, c'est la collection Idées Reçues, hein, et ça tombe bien puisqu'il y a vraiment beaucoup d'idées reçues sur les discriminations. La première question, elle est un peu large avant qu'on entende les premières histoires, les premiers témoignages. En France, on aime bien mettre dans des cases, catégoriser. Est-ce que ça veut dire déjà discriminer, Evald?
Oui, catégoriser, classer, c'est déjà discriminer. Et je dirais que ça fait partie des tendances lourdes des sociétés industrialisées dans lesquelles il a fallu, pour s'organiser, ça soit dans la vie personnelle, dans le travail, dans la gestion du temps, se donner des classes, hein, des catégories. Alors, catégorie sociale, classe sociale, catégorie de métier, des professions, des statuts, mais aussi beaucoup plus, de façon beaucoup plus constante dans la vie quotidienne. On aime bien classer, ranger, catégoriser, et on est déjà dans la discrimination, parce que de la classification, on est déjà dans la hiérarchisation, et vous voyez qu'on peut éliminer les moins bons par rapport aux meilleurs, etc.
Ça veut dire, Philippe Pierre, que finalement, le sentiment naturel de base, c'est malheureusement d'être discriminant, et d'écarter tout ce qui ne nous ressemble pas.
Bien, on peut le penser, oui, et discriminer, c'est étalonner, catégoriser. Pour autant, est-ce que c'est forcément mauvais? Une discrimination, au sens où nous l'entendons avec Evald Mutabazi, ça pourrait ressembler à l'idée d'un traitement défavorable d'un individu ou d'un groupe, parce que, comme tu l'as dit, Evald, en fait, nous vivons au sein de communautés, et nous choisissons parfois ces communautés pour revendiquer une appartenance. Donc, le traitement d'un individu ou d'un groupe, en raison de critères prohibés, et nous savons tous que, en France, les critères sont au nombre de 18, on va y revenir au cours de cette émission.
Ils ont été listés, hein. Il y a le handicap, il y a l'origine sociale,
c'est
il y a l'homosexualité,
hein,
il y a
les maladies. L'âge, le sexe, tout ce qui est autour aussi du patrimoine génétique. On peut penser à une société d'assurance qui vous demanderait, en fait, pour avoir le droit d'avoir un prêt, de revenir, en fait, sur l'idée qu'on se fait de votre ADN.
Oui.
Et on voit bien le danger que ça peut poser. Mais il n'empêche que catégoriser, étalonner, c'est pas forcément toujours mauvais. Non, la discrimination là, c'est vraiment le traitement défavorable. Et on ajouterait, en situation comparable.
En situation comparable. C'est le cas de la location des appartements, par exemple.
Oui.
Où vous pouvez être rejeté parce que vous n'avez pas le bon nom, que vous ne venez pas du bon quartier, que vous
alors
n'avez pas la bonne
couleur. Alors que tout le reste
couleur,
est pareil, c'est-à-dire un
alors
salaire,
que vous pouvez
par
payer,
exemple.
Oui. Comme tout le monde.
Et la discrimination ne dit pas toujours son nom. Vous allez le voir avec le témoignage de Sylvie Papazian. Elle est avocate. Elle travaille tout particulièrement sur les discriminations dont sont victimes les personnes atteintes d'une ALD, l'affection longue durée, une maladie longue durée en quelque sorte. Maître Sylvie Papazian évoque le cas d'un client diabétique discriminé par l'administration.
dans la fonction publique, c'est-à-dire pour des personnes qui sont engagées dans l'administration. On a déjà eu à faire des recours pour notamment une personne diabétique qui avait passé un concours de la fonction publique d'agent spécialisé de la police scientifique et technique, concours qu'il avait réussi, et ensuite il passe la visite médicale pour l'embauche, ce qui devait poser aucun problème, et en fait il sera refusé en raison de son diabète. Or, son diabète était parfaitement équilibré, et pour passer ce concours, ça n'était pas une condition particulière nécessaire, hein. Donc on a saisi le tribunal administratif, et le tribunal administratif lui a donné raison, en estimant que il n'y avait pas de condition particulière pour passer ce concours-là, et que son diabète étant parfaitement équilibré, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas embauché alors qu'il avait réussi le concours. Là, c'était une vraie discrimination qui est très fréquente de la fonction publique parce que, évidemment, c'est plus difficile de licencier un salarié qui est une maladie chronique que dans le privé. Souvent, en raison de ce facteur-là, ils ont tendance à essayer de refuser le recrutement. Et on a aussi à défendre des aides-soignantes ou des infirmières qui, dans le cadre de leur... dans des contrats notamment précaires, faisaient parfaitement l'affaire. Et lorsqu'elles devaient être stagiarisées et devenir titulaires, alors qu'elles étaient parfaitement compétentes et aptes dans le cadre de contrats précaires, ne le devenaient plus en raison du diabète. Et là encore, on a deux dossiers en cours devant le tribunal administratif contre des hôpitaux qui refusent d'embaucher en raison du diabète.
Voilà le témoignage de Maître Sylvie Papazian qui a du boulot, hein, du pain sur la planche apparemment, encore malheureusement à cause de ces discriminations. On écarte finalement, mais on ne dit pas ce qui fâche. On s'arrange pour ne pas dire frontalement à quelqu'un ce qui ferait l'objet d'une attaque discriminatoire finalement.
On ne le dit pas dans la plupart des cas aussi parce qu'on ne le sait pas. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des discriminations qui sont faites de façon quasi inconsciente. Je me souviendrai de ce patron qui disait « Eh bien, je ne donne pas la promotion à telle personne parce qu'elle ne parle pas de langue étrangère. » Or, il se trouvait en face d'un étranger qui tout simplement maîtrisait bien la langue du pays et n'avait pas... on ne savait même plus s'il était d'origine étrangère.
Oui.
Il était discriminé à la promotion. Donc c'était totalement inconscient. Il n'y a aucune intention de la part de ce patron-là, mais c'était une discrimination.
Les discriminations qui sont constatées alors par des gens qui n'en ont pas conscience, il y a aussi des, ça veut dire que les gens plus malfaisants, ceux qui prenons la couleur de peau seraient complètement et simplement racistes. Ils sont plus rares finalement, ils sont pas les plus nombreux dans ce qui provoque les discriminations.
Bah dans le témoignage de Sylvie Papazian qui est très illustratif hein, de ce que beaucoup d'entre nous vivons, il y a trois formes de discrimination. Il y a le racisme qui pourrait être caractérisé sur le phénotype, sur la couleur de peau. Donc on va mettre à l'écart des personnes qui, dans ce cas-là, sont atteintes de maladies chroniques. Elles ne nous ressemblent pas, donc on va les stigmatiser. Ça, c'est la discrimination directe.
Oui.
Et puis...
Elle existe, malheureusement.
Oui. Et il faut très la sanctionner. Courante, ouais. Et il faut certainement, on y reviendra, j'en suis sûr, un arsenal juridique qui soit suffisamment puissant et qui ne soit pas mis en concurrence par peut-être certaines chartes ou certains labels. On y reviendra avec grand plaisir.
Dans les solutions tout
ouais,
à l'heure.
Dans les solutions et les idées reçues. Deuxième niveau, c'est la discrimination indirecte, c'est-à-dire que là, on est face à des personnes qui ne veulent pas discriminer, mais qui, dans leur manière de faire, sur un critère en apparence neutre, vont mettre de côté un certain nombre de personnes. Mais parfois, avec les meilleures intentions du monde,
oui,
pensons à un exemple, en fait, de quelqu'un qui recruterait systématiquement dans son entreprise les enfants du personnel pendant l'été. Mais c'est un exemple.
Ça paraît très logique, ça paraît cohérent, parce que les enfants du personnel sont déjà connus, connaissent l'entreprise,
etc. Oui, on est dans la cooptation, mais on est dans une forme de discrimination.
On est dans la discrimination.
Pour cet exemple aussi, là, du diabète, une maladie, on peut penser à la place de l'autre et se dire qu'il va prendre des risques et donc être un bon samaritain en lui permettant de ne pas prendre des risques dans son travail.
Mais là, oui, on veut aussi. Même le protéger.
Et ce faisant, on surprotège et on l'isole par rapport à d'autres. Qui peuvent le stigmatiser, justement.
Et dans le témoignage de Maître Papazian, il y a un autre point, c'est le troisième niveau, discrimination directe, indirecte, c'est le niveau du temps. C'est-à-dire, ton temps à toi n'est pas mon temps à moi. Et si je soupçonne quelqu'un d'être atteint de maladie chronique, on va penser, en fait, qu'il empiète sur mon temps à moi, le temps productif. Et au travers du thème de la discrimination, il y a aussi pour Éval de Moutabazi et pour moi une vraie réflexion sur le temps utile, le temps libre et le temps libéré psychologiquement. Je suis sûr qu'on y reviendra.
On va passer maintenant, juste avant la pause, aux idées reçues, les clichés qui ont la vie dure. Alors, idée reçue, c'est le thème de votre livre, donc il n'y a que ça, mais nous aussi, on a une séquence dans cette émission. On va prendre les idées reçues un peu impopulaires et celles qui fâchent, avec d'abord, les personnes discriminées se présentent trop souvent comme des victimes. Est-ce qu'on peut le dire ?
Bah, il y a un grand risque derrière le thème des discriminations, c'est de couper la société en deux mondes, les victimes et les oppresseurs.
Et c'est si simple ou c'est plus compliqué ?
Ben oui, nous, ce qui nous anime,
c'est beaucoup plus compliqué.
Hein, ce qui nous anime, c'est de trouver le tiers.
Oui,
la figure qui nous anime, ça serait la figure en fait qu'on appelle interculturelle. C'est-à-dire qu'en fait, entre les victimes et les oppresseurs, essayons ensemble de faire naître des personnes qui sont dans la médiation,
qui soient capables de traduire ce qui est vécu et ressenti par les autres pour l'exprimer, le faire passer justement. Parce qu'en général, c'est que chacun est enfermé dans sa vision de l'autre. Et aussi dans sa vision de soi. Soit il se croit supérieur, meilleur, etc. Et il oublie même que demain matin, il peut se lever handicapé lui-même.
Oui.
Ça va jusque-là.
Ça peut tous nous arriver.
Ça va jusque-là.
C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et Val Moutabazi, la deuxième idée reçue, les discriminations sont très largement amplifiées par les médias.
Alors c'est tout à fait possible quand les médias ne sont pas suffisamment intelligents, entre guillemets, c'est-à-dire explicites, capables de donner... le sens des mots qu'ils utilisent, ils peuvent effectivement induire à des stéréotypes et même les démultiplier.
Dernière idée reçue, de toute façon, on fait tous partie d'une minorité ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On parlait de la liste des 18 facteurs discriminatoires tout à l'heure, qu'on va pas vous citer à l'antenne, mais vous voyez bien de ce dont il s'agit. Est-ce qu'on est tous dans un de ces 18, donc est-ce qu'on fait tous partie d'une minorité ?
Certainement, oui. Après,
plus ou moins.
Certainement. Après, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un qui se considère comme majoritaire à s'intéresser avec sincérité à quelqu'un de minoritaire ? Et puis, le deuxième écueil, vous avez cité le risque de couper le monde en deux, les victimes et les oppresseurs. Si les Noirs votent pour Barack Obama, et les femmes pour Hillary Clinton, pour qui votent les femmes noires et les hommes blancs. D'une certaine manière, la discrimination est profondément à penser de manière multidimensionnelle. Et pour traiter les choses, il faut penser certainement de manière multifactorielle, Eval.
En écoutant Philippe Pierre, évidemment, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on peut tous être discriminés et donc minoritaires à un moment ou à un autre. Tout dépend du contexte. On évoquait tout à l'heure le contexte économique. Lorsqu'il n'est pas favorable, les gens vont avoir tendance à rejeter les autres, il y a de la rivalité. Mais si la vie économique, si tout le monde a à manger, où se loger, etc., les choses disparaissent et c'est comme si on était des frères. L'histoire le montre très bien.
Une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler de la lutte contre les discriminations, vraies et fausses solutions, le CV anonyme, la discrimination positive. Est-ce que ça fonctionne ? On reviendra là-dessus. Il y aura également les témoignages de Brigitte Polza qui est chargée RH et elle-même handicapée. À tout de suite. Éval de Moutabazi, Philippe Pierre, deux spécialistes des discriminations aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous, les discriminations collection idées reçues, c'est le titre de votre livre, auquel il y a Valier Bleu. On va essayer de donner des solutions et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans quelques instants. La lutte des discriminations contre les discriminations, ça vient des anglo-saxons. On est plutôt en retard, en avance en la matière. Question.
Être en retard ou en avance, ça voudrait dire peut-être qu'on va chercher le meilleur modèle. Alors évidemment, on peut penser qu'on va être à la recherche de bonnes pratiques. Nous, avec Éval Moutabazi, notre conviction, c'est que le management, la manière de s'organiser, la manière de créer de la confiance, c'est situé culturellement. Et en fonction des lieux, en fonction des pays, en fonction des personnes, ça aura pas du tout le même sens un retard, un commandement, une influence. Et donc, on est très, très soucieux de...
Un pays en avance sur un autre, c'est très subjectif.
D'ailleurs, c'est très subjectif. De revenir aux racines, d'une certaine manière. D'ailleurs, aux racines des décisions.
Sur la lutte contre les discriminations, précisément, ce que vous nous dites, c'est que ça va être plutôt quelque chose comme un changement profond de la société, plutôt que de copier ailleurs
Exactement. Des mesures. De toute façon, il n'y a pas de retard, parce que le retard par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est ça la question qui m'intéresse, moi. Et on s'aperçoit avec Philippe Pierre, depuis qu'on travaille là-dessus, que en fin de compte, il y a trois approches. Une approche, trois visions de la différence, qu'il s'agisse de l'handicap, de l'âge ou du genre. Première vision, on voudrait que l'autre soit comme nous, fasse comme nous, se comporte comme nous. Et c'est ce que l'on appelle la vision monoculturelle. Et ça veut dire qu'en fait, le résultat, c'est l'effacement des différences.
Oui.
Heureusement, ça ne s'est jamais produit. Deuxième vision, hein, t'es d'accord, Philippe, c'est la vision qu'on appelle multiculturelle. Ok, on les voit, les différences, mais on s'en fout. Ils peuvent rester dans leur coin, on est indifférent, ils peuvent j'allais dire, crever entre guillemets dans leur quartier, c'est pas notre problème.
On vit côte à côte.
On est donc dans le côte à côte, indifférent.
Sans se croiser.
Du coup, ben oui, on se croise pas. Hein, on ne traite pas la différence. Et celle qui nous est, qui nous paraît intéressante aujourd'hui et qui correspond à la réalité du monde et des pays comme le nôtre, la France, c'est ce que l'on appelle la vision interculturelle, dans laquelle l'idéal serait de rechercher justement le rapprochement des peuples, des communautés différentes, des cultures différentes. Mais on est bien dans l'idéal parce que celle-ci est beaucoup plus exigeante. En termes de comportement, de conduite, de pratique d'organisation.
Alors il y a ces visions, ces changements globaux qu'il faudrait envisager, puis il y a aussi comme ça des mesures, des coups de pouce entre guillemets, comme la discrimination positive. Sur le handicap, vous le savez, les entreprises ont pour obligation d'embaucher 6% de travailleurs handicapés dans leur rang. C'est une loi qui date de 2005, une loi plutôt volontariste, qui n'existe pas d'ailleurs dans d'autres facteurs discriminatoires. On va découvrir maintenant le parcours de Brigitte Polza. Elle est chargée RH au ministère de la Défense et handicapé.
Je suis autodidacte au départ et c'est dans le cadre donc de ma reconnaissance de travailleur handicapé que j'ai pu bénéficier d'une prise en charge donc au niveau de la formation qui m'a permis d'obtenir un diplôme. C'est quelque chose effectivement que j'ai fait tardivement puisque j'ai passé mon master en 2007. J'ai obtenu un master en ressources humaines. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce master, j'avais fait une période une mission donc au sein du ministère de la Défense, à l'issue de laquelle j'ai postulé. Voilà, j'ai eu contact avec Madame Leverche et donc qui m'a proposé ce poste en catégorie A et j'étais vraiment très contente. J'arrive directement des Bouches-du-Rhône. C'est vrai que cette opportunité qui m'a été proposée, ça a nécessité quand même de faire un choix, hein, donc de renoncer à ma famille, mes amis, ma vie au soleil pour pouvoir venir à Paris pour tenir un poste de catégorie A. Donc c'est vrai que j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas été accompagnée pour la recherche du logement, parce que c'était pas possible autrement. J'arrivais avec ma fille qui est scolarisée, donc effectivement j'ai pu bénéficier de cet accompagnement. Sans cela, ça n'aurait pas été possible. Toute la difficulté quand le handicap n'est pas visible, c'est de savoir dire à quel moment quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, et ça c'est le plus difficile. Je viens donc des métiers de l'accompagnement, donc j'étais dans l'accompagnement social et professionnel, et en fait c'est le médecin du travail qui m'a donc proposé de faire cette reconnaissance Cotorep compte tenu des difficultés que j'avais pu rencontrer au niveau de ma santé. Cette reconnaissance m'a permis d'obtenir la formation que je n'avais pas pu financer par ailleurs, parce que j'ai toujours privilégié l'emploi puisque j'étais chargée de famille, donc il fallait bien effectivement gagner sa vie. Ça a été le tremplin pour me permettre d'obtenir cette formation et de valider mon expérience professionnelle. Ça, c'est, je dirais que c'est fondamentalement ma force, on va dire. C'est que dans tout ce qui nous arrive, c'est justement plutôt que de subir, d'essayer d'en faire une force. Et il faut bien effectivement préciser que ce qu'on cherche, c'est pas quelqu'un qui bénéficie d'une reconnaissance Cotorep, c'est quelqu'un qui a des compétences à apporter. Il est clair que pour ce qui me concerne, j'ai été recrutée parce que j'avais un master en ressources humaines, pas parce que uniquement j'étais travailleur handicapé. Sinon, j'avais rien à apporter.
Voilà, merci Brigitte Polza pour son témoignage, témoignage@vivrefm.com, l'adresse pour témoigner également vous aussi dans cette émission. Brigitte, elle termine par l'essentiel, les compétences, malgré ce coup de pouce qui existe, qui est l'embauche de travailleurs handicapés avec une reconnaissance avant, une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Ça fonctionne donc forcément dans l'instant, puisque ça permet à la personne d'accéder à un emploi. Est-ce que ça marche à long terme? Est-ce que ça marche pour elle, ou est-ce qu'on lui fait payer par la suite?
Oui, dans le témoignage de Madame Polza, il y a beaucoup à entendre. J'ai entendu, moi, plutôt que subir, faire une force. C'est-à-dire, en fait, reconnaissez-moi dans la plénitude de ma personne. Et aujourd'hui, notre société, elle est structurée autour d'un débat. Pour établir, en fait, ou pour juguler des injustices, pour vaincre des inégalités, est-ce qu'il faut en passer par l'action positive?
Oui.
Et donc là, on va être dans une logique de territoire. Et on va considérer les personnes sur des territoires défavorisés socio-économiquement. C'est par exemple aussi, de mon point de vue, l'orientation de Sciences Po, avec ce qui a été fait dans cette institution. Où
donc on a pris des jeunes de banlieue et on les a aidés à accéder à ces grandes écoles.
Et on a travaillé sur leurs projets professionnels. On a voulu, je dirais, travailler sur le long terme, sur les mentalités.
On les prépare.
Mais alors, est-ce que ça marche ou est-ce qu'on leur fait payer?
Alors voilà,
là d'où ils viennent.
Premier pôle, l'action positive. Deuxième pôle, c'est la discrimination positive. C'est-à-dire, on va un cran plus loin et on va non pas s'intéresser au territoire, mais là on va s'intéresser.
Dans la discrimination positive, il y a discrimination. discrimination.
Il y a discrimination. Ah oui, et donc, on va vouloir volontairement aller un peu plus loin parce qu'on considère que notre système arrive un peu à son épuisement. Et là, la question que vous posez, elle est centrale. C'est à Sciences Po, une fois qu'on est rentré, quelles sont les conditions d'intégration ? Pour Madame Pozza, c'est la même chose. Oui. Une fois qu'à compétence égale ce qu'elle revendique, le temps long des ressources humaines fait son œuvre et comment, à ce moment-là, elle peut à nouveau exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, de revendiquer peut-être le cas échéant.
Mmh. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être une préparation dans l'entreprise ou dans l'école, en l'occurrence.
Une préparation à la fois.
Tout le monde doit jouer le jeu.
À la fois de la personne concernée, qu'il s'agisse d'un handicapé ou d'un étranger ou d'un jeune,
c'est la personne. Est-ce que c'est facile à vivre pour une personne justement d'avoir alors, été mis là
viens,
par
viens,
sa différence?
J'y viens, mais il faut aussi une préparation de la part de l'entreprise, de l'école, de l'hôpital qui accueille. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon un effort à fournir d'un côté comme de l'autre, et pour le minoritaire, il y a un coût. Hein, c'est ce qu'évoque madame, c'est de dire que il a fallu qu'elle ait les compétences nécessaires et qu'elle les exerce, hein, pour que les gens voient effectivement.
Qu'elle les montre, qu'elle les démontre peut-être encore plus.
Qu'elle est motivée, et des fois c'est un coût assez énorme.
Mais dans son cas, on ne fait que restaurer un droit au travail. C'est-à-dire qu'en fait, on la place sur la ligne de départ et on restaure une inégalité de naissance. Là où le problème est peut-être plus délicat, c'est quand on s'arrête en fait à des différences visibles et qu'on voudrait à la fois restaurer des droits en diversifiant les droits, je dirais les droits et les devoirs, c'est-à-dire qu'en fait on n'a plus une seule règle pour tous, mais on va commencer en fonction de groupes qu'on va dans la population étiqueter, catégoriser. On revient sur notre thématique de tout à l'heure. À ce moment-là, on va commencer à découper le pays. C'est la question notamment des statistiques
des
dites
quotas
ethniques et puis des quotas.
Le quota, oui.
Ces statistiques qui sont interdites en France sur la plupart des sujets.
Oui, mais pour autant, on peut penser que dans un certain nombre de lieux de production et notamment les entreprises, c'est la politique du troisième tiroir, c'est-à-dire qu'en fait, on va quand même suivre des indicateurs et des tableaux de bord.
Alors, même chose pour le CV anonyme, qu'on en parle puisqu'on a 2-3 minutes. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Puisque il va bien falloir un jour rencontrer le candidat
débat
en vrai.
Très intéressant.
Et voir sa couleur de peau éventuelle. C'est,
oui,
c'est
débat,
clair et net, c'est en
débat
face.
Débat très intéressant par rapport auquel on est tout à fait clair, c'est-à-dire qu'on pense que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la reconnaissance de la personne telle qu'elle est. Encore faut-il qu'elle-même puisse l'assumer. C'est pas du tout évident. C'est-à-dire, au fond, le CV en soi, ça peut ouvrir une porte, mais une fois qu'il sera devant l'interlocuteur, évidemment, ça change tout.
Les gens qui nous écoutent, qui sont noirs, par exemple, ils doivent mettre, selon vous, ils doivent mettre leur photo sur le CV?
Absolument.
Ou pas?
Moi, je mets ma photo. Je suis noir.
Oui, les auditeurs ne le voient
mais
pas.
Mais les autres, ah oui, je le dis. C'est pour ça que je le dis, justement. Et je pense que ça serait une erreur de croire que parce qu'on n'a pas mis la photo, ça règle tous les problèmes de recrutement.
Et pour moi qui suis blanc et qui pourrait être un recruteur, ce que j'ai été pendant longtemps.
Vous étiez DRH, hein.
Et oui, j'ai été DRH en entreprise. Je considère que c'est un point d'entrée. Mais
insuffisant.
Insuffisant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut rentrer dans une organisation par la porte. Et attention au fait de dire à cette personne qui rentre et qui est noire, surtout reste noire. C'est-à-dire empresse-toi, ça c'est la thématique de la diversité. La diversité c'est pas l'égalité. Empresse-toi de correspondre à l'idée que je me fais d'être noir et apporte-nous
surtout
en fait quelque
change
chose.
Pas.
Surtout ne change pas.
Les entreprises qui communiquent sur la diversité, alors ça c'est pas bien parce
c'est l'effet d'affichage.
Du coup, elles prennent une personne et qui devient le produit d'appel sur la diversité.
C'est-à-dire que si la personne n'est pas acceptée telle qu'elle est, elle n'est pas acceptée du tout et on la reconnaît pas et de toute façon ça ne pourra pas fonctionner.
L'égalité, l'égalité c'est créer dans l'entreprise ou dans l'organisation des espaces de parole libre ou au moins libérée. Mais attention, l'entreprise est aussi, si on reste sur ce niveau, Evald, un lieu de pouvoir, donc de domination.
De domination, de production aussi. Et dans lequel il y a des logiques qui s'imposent à tout un chacun, y compris d'ailleurs aux minorités.
Alors si par exemple on dit un directeur dit que il ne prend pas de personnes noires parce qu'il travaille dans la parfumerie de luxe et que ça sera pas bien vu par les clients milliardaires qui vont investir, ça l'excuse ou ça ne l'excuse
non,
pas?
Non, ça l'excuse aucunement.
Absolument pas.
C'est de la discrimination directe et tous ensemble nous devons absolument lutter contre cela et rénover à la fois les pratiques, parfois les sanctionner et travailler dans le temps long des mentalités.
On parlera de la loi dans la dernière partie de cette émission, puis on vous parlera aussi de la halle et des recours. Mais un tout petit mot là avant la pause sur la charte, les chartes et les labels qui sont donc mis en avant par les entreprises. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait changer les mentalités ou est-ce que ce sont des artifices pour se donner bonne conscience?
Encore une fois, pour nous, c'est un premier palier. Hein, il faut aller au-delà de ça, des chartes. C'est bien qu'ils y adhèrent à l'idée. C'est bien qu'ils mettent en place des procédures. C'est bien qu'ils ouvrent un espace de réflexion et de débat là-dessus. Mais en même temps, la vraie question pour nous, c'est quand même celle de la reconnaissance de l'individu dans sa différence. Mmh.
Ne passons pas plus de temps à rendre compte à des tiers qu'à agir.
Oui. On va être dans l'action concrète et on va vous donner aussi des solutions et des recours dans la dernière partie de cette émission. Il y aura votre séquence Un autre regard qui parlera dans quelques minutes de la lutte contre l'obésité, qui n'est pas la lutte contre les obèses, et puis on répondra à toutes vos questions internet en fin d'émission. À tout de suite. Vivre FM, c'est vous. Vous aidez aujourd'hui jusqu'à 13h à lutter contre les discriminations, l'exclusion dont vous pourriez être victime. Eval Moutabazi et Philippe Pierre sont avec nous, deux chercheurs, deux sociologues, deux personnes engagées sur ce terrain des discriminations. Voici la séquence Un autre regard. Elle est consacrée à la lutte contre l'obésité. Comment lutter contre l'obésité sans exclure ceux qui sont obèses, si vous me suivez. La députée UMP Valérie Boyer interpelle la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, à propos de pilules amaigrissantes. C'était à l'Assemblée nationale et c'était en décembre 2008. Écoutez.
Mes chers collègues, Madame la ministre de la Santé, le 30 septembre dernier, j'ai remis un rapport d'information intitulé « Faire de la lutte contre l'obésité et le surpoids une grande cause nationale ». Vous le savez, l'obésité et le surpoids sont dans le monde entier un fléau et touchent des millions de personnes. Tout cela pousse certains d'entre nous à essayer de trouver des solutions aux conséquences parfois dramatiques. L'actualité nous a relaté des événements douloureux. Je veux parler, Madame la Ministre, des gélules dites miracles pour perdre du poids à tout prix. Cet été, plusieurs personnes ont perdu la vie. Madame la Ministre de la Santé, comment faire pour empêcher toutes ces personnes, en grande majorité des femmes, qui pour lutter contre un excès de poids, pas toujours justifié, mais poussé par une société qui veut que tout le monde ait le même critère de beauté, veulent se procurer des gélules, également appelées médicaments, de façon tout à fait impropre? Que comptez-vous faire pour stopper la vente de ces produits ?
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer, c'est l'occasion pour moi, votre question, Madame Valérie Boyer, de rappeler qu'un médicament n'est pas une substance comme les autres. En tous les cas, la lutte contre l'obésité et le surpoids passe par une politique globale de prévention, de prise en charge. Et je voulais vous remercier, Madame la députée, pour l'action particulièrement efficace que vous menez à mes côtés dans ce domaine.
Voilà, petit extrait tout de ces débats toujours houleux et animés, même si là, elles étaient toutes les deux d'accord, à l'Assemblée nationale. On a pris cet exemple de la lutte contre l'obésité pour se demander ensemble où est-ce qu'on fixe la limite. Voilà, est-ce que lutter contre l'obésité, ça peut se traduire en termes de lutter contre les personnes obèses et ça peut se traduire en termes de discrimination contre les personnes qui seraient trop grosses?
On est bien sur une différence visible. L'obèse, c'est-à-dire on pense d'abord à sa taille, à son poids. Effectivement, ça pose question. Lutter contre l'obésité, cet état physique, peut passer pour toute une série de solutions médicales, alimentaires. On n'en a pas parlé dans les débats précédents. Alimentaires, la façon dont les gens se nourrissent est évidemment très importante. Mais quelque part, et c'est évoqué dans le débat précédent, c'est aussi l'image qu'on se fait du beau. Et ce qui est gros, c'est forcément mauvais partout dans le monde, je ne le pense pas. C'est vrai que si on est en bonne santé, on peut être grand, gros, c'est pas gênant. C'est aussi l'image que les autres nous renvoient, qui va être très très destructrice. Et donc c'est aussi comment la personne se vit, hein, comment elle vit ça. Alors évidemment la publicité y est pour quelque chose. Hein, oui. On voit bien à la télé le modèle de la belle fille du bel homme, c'est quand même un modèle plutôt plat. Alors vu par un Africain, je vous assure que c'est une sacrée surprise.
Comme quoi, il y a plein de visions différentes et on a tendance évidemment à l'oublier. On est sur ces questions limites. Ça peut être la même chose pour l'origine, le fait d'être étranger, d'avoir une couleur de peau, d'être plus ou moins noir, parce qu'il n'y a pas noir et blanc. Il n'y a pas français ou étranger. Alors à partir de quand on va se dire il y a une discrimination, ou à partir de quand on va se dire qu'on est d'une autre origine? Enfin, on a tous des origines étrangères si on remonte un peu plus loin.
Oui, votre séquence s'appelle Un autre regard, mais dans ce qu'on a entendu et dans ce que tu as donné à penser, Eval, on pourrait appeler le diktat du regard.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui nous écarte, ce qui nous met de côté, c'est peut-être d'abord le regard qui pèse sur nous. Et c'est la capacité, comme tu le dis, en fait, pour quelqu'un dans sa trajectoire de vie, de trouver un certain nombre de ressources. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Et donc, un des grands vecteurs de lutte contre les discriminations, c'est certainement le travail de l'école, C'est certainement le travail aussi patient de l'éducation parentale, des réseaux qu'on construit. Et là encore, nous ne sommes pas tous sur la même ligne de départ. Donc, dans quelle mesure, en fait, comme tu l'as dit, Evald, quelqu'un va avoir la capacité de penser cette tension entre le regard de l'autre et l'idée qu'il se fait de lui-même? Eh bien, nous n'avons pas tous les mêmes armes. Et c'est une, à mon avis, une des responsabilités de notre société, et ça passe par la loi.
Il faut évidemment bien vivre sa différence, il faut aussi se mettre en avant. Il y a des lois qui
sont... Mais ce qui est protecteur, c'est la loi.
C'est-à-dire
que ce qui est d'abord protecteur, c'est la loi.
Oui. Alors, est-ce que les lois qui existent pour protéger et pour lutter contre les discriminations, parce qu'il y a des textes, est-ce qu'elles sont efficaces? Et est-ce qu'il arrive aussi qu'elles soient en contradiction avec des lois qui existeraient encore, qui seraient discriminantes? Enfin, voilà. Est-ce que c'est efficace, la lutte contre les discriminations qui passe par la loi?
Mais le travail...
Que ce soit un texte à part et pas inclus dans un peu toutes les lois. Enfin, ça serait ça l'idée.
Ouais, moi, à titre personnel, je suis assez convaincu qu'il faut passer par la loi et pas par l'amoncellement de textes ou d'actions au travers de chartes ou de labels qui seraient à côté des lois et qui ne feraient d'une certaine manière que reproduire ce qui est écrit dans la loi, mais avec un habillage qui nous amènerait en fait à confondre diversité et égalité.
Tout en sachant
c'est
que
pas la même chose,
c'est pas la même chose.
Et tout en sachant que les lois sont quand même produites par les hommes et que ces hommes-là qui produisent les lois sont aussi influencés par le contexte politique et économique dans lequel ils vivent.
L'important, c'est pas d'avoir une élite.
Des progrès certainement.
Ouais. L'important, c'est pas d'avoir une élite noire qui émerge et qui va à son tour dominer une élite blanche. L'important, c'est de pouvoir en fait augmenter le nombre de places intéressante et valorisée dans notre société. Donc là, il y a deux regards. Est-ce qu'on est dans un modèle de la diversité où l'important, c'est de bouger dans le système? Ou est-ce qu'on est dans un modèle qu'on pourrait dire d'augmentation du nombre de places? Où là, on est plutôt, à notre avis, dans celui de l'égalité réelle? Et franchement, dans notre société, ce qui est fustigé, c'est que les textes n'arrivent pas justement à vaincre des inégalités réelles.
Alors un tout petit mot avant de passer aux questions internet pour ceux qui nous écouteraient. Les recours, qu'est-ce qu'on fait si on a été victime ce matin, hier, avant-hier d'une discrimination?
Bah, la première chose d'abord, c'est avoir la force. Avoir la force de se percevoir comme personne discriminée. Et là, on est encore sous le regard de l'autre. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'osent pas avoir cette force-là et de se tourner, par exemple, pour recueillir l'avis de la HALD et d'être, par rapport au dossier, aidé.
La HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité.
Exactement.
Et on peut la saisir, la HALD.
Absolument.
Et on peut la saisir. Son numéro de téléphone, 0810-00-5000. Donc ça, c'est aussi un numéro important. Et puis derrière, c'est trouver autour de soi ce que nous appelons des partenaires visibles ou invisibles. C'est des personnes qui vont rentrer dans la compréhension fine de votre trajectoire et qui vont vous aider un peu comme un coup de pouce, Evald,
qui vont nous reconnaître, y compris nous accompagner
dans l'entreprise. Concrètement, si on a été victime d'une discrimination de la part d'un supérieur ou du patron, on va chercher des alliés avec ses collègues, on va ne pas en parler du tout dans le travail et régler ça au tribunal. Qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a l'acteur syndical, c'est-à-dire
syndical
que
aussi,
ce qui nous permet en fait de passer de la confrontation au triangle.
Oui.
C'est-à-dire que l'égalité, elle se construit bien souvent pour nous au travers de la figure du tiers.
Oui.
Et le paritarisme est tout anti-nourri de cette idée. C'est-à-dire, pour sortir du jeu entre victimes et oppresseurs, il y a peut-être intérêt à essayer de trouver des médiateurs.
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les médiateurs, effectivement, qui nous permettent non seulement de pouvoir nous défendre, mais aussi nous révéler, parler de nos différences, la vivre aussi. Parce que l'une des difficultés, ça peut être ça aussi, c'est qu'on n'ose pas défendre nos différences, nos valeurs par rapport à d'autres. Et donc, si on a quelqu'un qui est capable de nous reconnaître et de nous accompagner, c'est très bien.
Défendez-vous surtout et réagissez. Donc, le numéro de la HALD, 08 10 00 50 00, il y a www.hald.fr. Voici les réponses aux questions Internet. Première question de Elsa qui nous écrit de Sceaux. Mon employeur m'oblige à assister à des réunions tard le soir. Ça me pose des problèmes pour garder mes enfants. Est-ce une discrimination? À qui m'adresser?
Eh oui, c'est une discrimination qu'on pourrait considérer comme systémique.
Systémique.
C'est-à-dire que c'est votre employeur qui, d'ailleurs parfaitement, je dirais, conscient du fait que lui, c'est son rythme de travail, c'est sa manière de faire, va vous empêcher de pouvoir équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Bah oui, c'est un facteur de mise à l'écart, de retrait. Puis ça peut même être une discrimination directe, c'est-à-dire qu'on peut connaître des employeurs qui, pour le point 4 de l'ordre du jour de la réunion qu'ils organisent, sont parfaitement conscients de mettre à l'écart des gens qui ont justement charge de famille. Et là, il faut revenir à des facteurs lourds.
Ça peut être volontaire.
Soyons quand même prudents avec les entreprises actuelles qui travaillent aux quatre coins de la planète.
Oui.
Les emplois du temps ne sont pas évidents à gérer. Donc, à certains moments, on peut tomber là-dedans. hein, parce qu'on a voulu réunir les Brésiliens, les Français, les Marocains. Des filiales étrangères.
Il faut voir un petit peu autour et le contexte. Fabrice de Marne-la-Vallée nous écrit « Je m'habille généralement en jean basket. Est-ce qu'il faut que je change de look pour aller à un entretien d'embauche? Il me semble que les discriminations sont plus sur la tenue et le langage que véritablement sur la couleur de peau ou le fait de venir de banlieue. »
Très amusant comme question, parce qu'on en parle souvent tous les deux avec Philippe dans le séminaire. Il m'arrive de me déguiser. Aujourd'hui, un tout petit peu moins d'habitude.
Vous vous déguisez ?
Une belle cravate et tout, bien habillé à la française. Je peux le faire.
Ouais.
Mais je peux aussi m'habiller avec un boubou africain. Je peux aussi m'habiller comme je
l'entends. Alors, est-ce que c'est conseillé pour
alors,
aller en entretien
le problème,
d'embauche ?
C'est savoir que s'habiller, c'est communiquer. Et donc, est-ce que le choix de l'habit qu'on a fait est une bonne communication par rapport au poste qui
est en poste. Et puis, laissons aussi peut-être la possibilité à quelqu'un d'être le lundi en boubou et le mardi en costume. C'est-à-dire que ça, c'est la liberté pour chacun en fonction des scènes d'expression.
Ouais.
De revendiquer ou pas une appartenance. Là encore, sortons du dilemme entre victime et oppresseur. Il y a une capacité chez beaucoup d'entre nous, en fait, à jouer des rôles et à s'inscrire dans des logiques de rôle. L'important, c'est de conscientiser
tout
ça.
Tout le temps, on joue les rôles différents.
Fatima Devry, pourquoi y a-t-il si peu de personnes d'origine nord-africaine à la télévision ? Alors c'est intéressant, est-ce que les médias c'est la visibilité, est-ce que c'est utile aussi de voir la diversité à la télévision, et pourquoi il n'y en a pas plus ? C'est Fatima qui nous le demande.
Bah ça c'est...
L'histoire, notre... je dirais que c'est l'histoire, mais c'est a priori, hein, j'ai pas fait de recherche là-dessus, a priori je dirais que c'est toute l'histoire qui est là. Je dirais aussi que justement c'est lié à tous ces mécanismes qu'on a évoqués tout à l'heure, de perception de l'autre, de stéréotypes, et que l'obo, évidemment, il est souvent connoté en couleur. Peut-être que c'est pour ça, mais c'est une hypothèse.
Attention aussi à une vision où on chercherait absolument à être aux couleurs de la France. Qu'est-ce que ça voudrait dire ?
Rien.
Quelle France et quelle couleur ?
C'est-à-dire qu'en savoir qu'aux États-Unis, par exemple, on oblige les films et les séries à montrer des noirs, par exemple. Alors, est-ce qu'en France aussi, il faut imposer une vision ou est-ce qu'il ne faut pas ?
Ouais, mais c'est la question. Est-ce qu'on doit s'arrêter à un critère ? Tout à l'heure, j'évoquais Hillary Clinton et Barack Obama. La discrimination, c'est certainement en fait une appréhension multifactorielle. Et donc, il y a des personnes qui vont ne pas absolument vouloir être enfermé dans un des critères. Et nous sommes tous, en fait, de par nos trajectoires de vie, des êtres pluridimensionnels.
On ne nie pas pour autant le rôle des médias.
Pas du tout.
Sur ces questions-là.
Ni la domination,
on y
justement.
On croit énormément. Et je pense que c'est une utilisation intelligente, reconnaissant les capacités des gens et non pas les couleurs ou les genres.
Avant l'entrée à la télévision, réfléchissons au rôle des écoles de journalisme. Réfléchissons en fait au lieu
où on les forme,
structure les projets professionnels et d'une certaine manière en fait à la mobilité de ceux qui sont des puissants ou qui ont des ressources à aller à la rencontre de ceux qui sont d'une certaine manière moins favorisés.
Ce sera le mot de la fin et je rappelle le numéro de téléphone de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, c'est-à-dire la HALDE, 08 10 00 50 00. C'est le conseil de base qu'on peut vous donner hein, si vous êtes victime d'une discrimination. Et puis Les Discriminations, votre ouvrage à tous les deux est paru aux éditions Le Cavalier Bleu dans la collection Idées Reçues. Dans quelques instants, d'autres appels à témoins et le thème de demain. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci infiniment.
Merci infiniment de nous avoir invités.